Je sais qu'Annick Baliry se plaît à Radio Présence, puisqu'on la retrouve toutes les semaines dans les causeries vertes. Maintenant, depuis la semaine dernière, elle était avec nous dans Un jour, un livre, un auteur. Donc, comme elle s'y plaît, elle est revenue pour un nouveau sujet, n'est-ce pas, mon cher Philippe Donny et mon cher Diego Arrabal, pour Un jour, un livre, un auteur. On n'est pas dans les causeries vertes aujourd'hui.
Exactement, tout à fait.
Bonjour Philippe.
Quoique, le sujet, à mon avis, on va un peu glisser.
Ouais, bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe.
Bonjour. On va un peu glisser parce que, bon... Il faut bien dire que dans un peu moins de 2 mois maintenant, ça va être le printemps, Philippe Subercase. Donc, qui dit le printemps, dit les beaux jours, comme on les nomme joliment. Et qui dit beaux jours, dit graines. Mais de quelles graines allons-nous parler aujourd'hui? Et quel
des
lien...
bonnes ou des mauvaises?
Des bonnes ou des mauvaises, exactement. Oh, il n'y a pas de mauvaises graines. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Donc...
On a des noms.
On a une liste.
Là, par contre, je sais écrire.
On a une liste rouge, ouais. Et donc, quel est le lien entre les graines et les mots? Eh bien, j'ai pour habitude, moi, de dire que les romans ne sont que des mots que l'on sème au gré des pages, qui sont aussi lus par des lecteurs et des lectrices. Voilà pour moi quel est le lien, effectivement, entre les graines et un jour, un livre, un auteur. Pour autant, nous allons essayer de séparer le grain de livret en parlant de grainothèque. C'est quoi une grainothèque? C'est justement ce que nous allons comprendre aujourd'hui avec notre invité qui nous a fait le plaisir de revenir après nous avoir accompagnés la semaine passée pour ces petits textes qui nous ont régalés et nous espérons aussi qu'ils vous ont régalé à toutes celles et ceux qui se trouvent derrière votre poste de radio ou dans votre voiture. Bonjour Annick Baliry.
Bonjour Philippe Bernoni.
Bonjour Annick.
Bonjour.
Merci de nous tenir compagnie à nouveau en cette nouvelle semaine. Je parlais de grainothèque à l'instant. Une grainothèque, c'est quoi et ça sert à quoi?
Alors, une grainothèque, c'est la base, c'est un échange de graines faites entre citoyens. Donc, ça sous-entend la gratuité. Et c'est un peu comme une bibliothèque, c'est-à-dire que ça va être aussi un réservoir de biodiversité. Une des fonctions de la grainothèque, ça va être de conserver un patrimoine végétal aussi. Et en particulier des graines reproductibles que l'on ne trouve pas forcément... dans le commerce. Par exemple, à la grainothèque de Lourdes, très dernièrement, on a rentré des graines de persil qui avaient été sélectionnées par une mamie qui les a depuis longtemps dans son jardin. Et un persil particulièrement robuste. Et ça, c'est bien puisque par le biais des gens qui viendront chercher les graines, c'est une variété qui va se répandre et être surtout conservée.
Quand vous parlez de persil robuste, vous pensez au réchauffement climatique, c'est un persil qui résiste bien à la sécheresse?
Oui, par exemple, voilà, l'adaptation au changement climatique, c'est aussi un des grands intérêts de la grainothèque. Alors, il y a eu, de façon officielle, des banques de graines, en particulier, il paraît qu'au large de la Finlande, il y a une île sur laquelle on a mis des congélateurs et où on a enfermé des graines. Bon, imaginez qu'il y ait une submersion, une bombe ou Dieu sait quoi encore.
Ou une météorite, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité.
Voilà, si on les sort dans 30 ans, ces graines, elles vont faire quoi si le changement climatique s'est opéré? Donc en fait, cette biodiversité qui se modifie, elle repose sur de nombreuses personnes et c'est ce qui va permettre de garder un patrimoine génétique vivant et adapté.
Alors tant qu'on parle de grainothèque, c'est quoi l'histoire de la grainothèque? C'est né comment et c'est né où la grainothèque?
Alors moi je participe à la grainothèque de Lourdes, donc c'est une structure qui appartient à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Alors je précise dès à présent que je ne m'exprime qu'en tant que bénévole et je ne suis pas le porte-parole
de la
structure.
De la
je parle qu'à mon nom personnel. Donc un jour où je faisais une conférence à la médiathèque, j'ai commencé à faire des petites conférences sur la nature. Une des personnes qui travaille à la médiathèque, Corinne Lopez, est venue me trouver en me demandant si ça m'intéresserait de participer à la création d'une grainothèque. Donc moi j'ai bondi, c'est ce genre de projet qui m'enthousiasme.
Et elle a été créée quand donc alors?
En 2018, et elle fonctionne, alors on a commencé avec un tout petit présentoir en carton qui avait été chiné chez Leclerc, un présentoir de livres dans lequel on on a commencé à mettre des petites pochettes et des petites boîtes. Et là, maintenant, on a un meuble magnifique qui a été fait par les AT de Lourdes. Et un très beau meuble en bois avec des grands tiroirs en carton à cause de la légèreté. Et c'est une affaire qui marche parce que, bon, on a eu quelques doutes au début parce qu'en fait, ça ne fonctionne qu'avec les apports que les personnes peuvent amener à la grénothèque. Donc, d'une année sur l'autre, on ne sait jamais combien on aura de variétés. Enfin, voilà. Et ça fait partie des bonnes surprises aussi. L'année dernière, on était un petit peu juste en variété de tomates. Enfin, juste, on devait en avoir quelque chose comme 16, et moins que l'année précédente. Et là, on a eu la surprise de voir arriver une dame avec une collection de 25 variétés de tomates. Et toutes alors reproductibles, toutes différentes, et donc on a ce genre de surprises, et puis des choses assez bizarres aussi, outre les légumes, les fruits et les légumes. On a aussi des fleurs, mais on a aussi des choses curieuses comme la courge éponge, le pastel, le sorgho pour faire les balais. Enfin, on peut être autonome avec la grénothèque. Voilà. Et c'est vraiment... on a des noyaux aussi depuis quelques temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on avait plutôt des personnes du troisième âge voilà, qui participaient. Et là, la clientèle, entre guillemets, se rajeunit. Et on a même des enfants qui viennent. Et... alors, le côté populaire aussi est intéressant. Alors, il n'est pas question de faire concurrence aux grandes firmes de graines, mais ça permet aussi pour des gens qui sont débutants de pouvoir prendre plusieurs paquets et s'essayer. Et c'est vrai que quand le paquet coûte 2 ou 3 euros, suivant les bourses, c'est quelque chose de compliqué. Alors, dans les paquets, il peut y avoir très peu de graines. Hein, quand on a des variétés rares, moi, ça m'arrive. Alors, je fais ça le soir. Je compte les graines. Et pour les variétés rares, bon, je mets 6 graines par paquet. Donc, on ne peut pas parler de concurrence. Mais ça permet à des gens de pouvoir jardiner sur le balcon, se lancer dans un premier jardin. Et voilà ça.
Alors, une question.
Pardon, allez-y, Diego. Par rapport aux commerçants qui vendent des graines, certaines graines ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire qu'on peut les semer, elles donnent oui. un plant, et puis ensuite, ce qui reste, le plant est stérile. Hein, c'est
alors, il y a une confusion entre les campagnes qui avaient été menées en Inde sur des plants de coton qu'on avait rendus stériles à la deuxième génération, avec les hybrides F1. Alors, les hybrides F1, ils ne sont pas stériles, mais par contre, la génération suivante, c'est l'anarchie la plus complète.
Qu'est-ce que vous appelez hybride F1 ?
Alors, hybride F1, c'est la première génération. C'est-à-dire que, par exemple, on va marier une tomate qui va être charnue avec une autre qui est résistante.
Alors, quand vous dites marier, comment on fait ?
On les pollinise à la main.
Ah, vous les pollinisez à la main ?
Oui, mais bon, souvent, c'est fait dans des pays du tiers-monde et pas toujours... Enfin, bon, voilà. Dans de bonnes conditions, surtout pour les tomates, parce que les tomates sont auto-fertiles. En fait, si on veut vraiment les croiser, il faut vraiment intervenir. Et donc, la première génération, tous les individus se ressemblent. Et c'est stable. Mais la deuxième génération, les gènes des parents interviennent. Et là, c'est l'anarchie la plus complète. Vous avez du grand, du petit, du gros fruit, du petit fruit. Donc, ça incite les gens
à racheter la graine d'origine.
La graine F1, voilà. Voilà. Mais bon, après, je pense qu'on n'a pas, on n'est pas en contradiction. C'est-à-dire que du fait qu'on garde ce patrimoine génétique, ça peut être intéressant aussi parce que les firmes grainières, elles ne peuvent pas non plus avoir 150 000 variétés.
Il faut qu'il y ait, de toute façon, une clientèle, sinon elles ne le font pas. J'avais une question, moi, sur la grénothèque là, donc, de Lourdes, hein, que donc vous avez présentée. Hein, qui est la grénothèque, quand je dis de Lourdes, la grénothèque de l'agglomération, donc Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Comment on fait pour la contacter ? Si par exemple je suis quelqu'un qui est des graines là, comment je fais effectivement pour la contacter ? Quels sont les horaires d'ouverture et qui je peux contacter ? Il y a un numéro de téléphone, il y a un courriel.
Les horaires d'ouverture, vous allez partir sur internet parce que je les ai pas forcément en tête. Ce qui est sûr, c'est que le lundi c'est fermé. Après il y a ça a changé pas mal, donc voilà, essayez de voir. Il y a des jours où c'est ouvert jusqu'à 7h, donc si vous travaillez, il y a pas de souci. Il faut savoir qu'on peut aller fréquenter la grénothèque sans être inscrit, et qu'on peut prendre gratuitement 10 sachets de graines. Voilà. Et les gens qui veulent nous porter des graines les portent à la... À la banque de la... Alors, c'est la banque, vous savez, le bureau. Alors, c'est situé au premier étage de la médiathèque de Lourdes.
D'accord.
Et en fait, quand on nous porte les graines, ce sont les dames qui tiennent la sonothèque dans laquelle le meuble est installé, qui font l'accueil. Et moi, je vérifie toujours que ce ne sont pas des hybrides F1.
Et comment vous faites pour le vérifier?
Eh ben déjà, si on a le nom des variétés, enfin on demande le nom des variétés, ça peut se vérifier très vite.
Parce que la graine, si vous voyez la graine, vous pouvez pas arriver à le vérifier sur la graine, ça.
Ah ben non, la graine. J'arrive pas à interviewer les graines.
Voilà. C'était pour savoir comment on fait, quoi.
Non, mais en général, les gens étiquettent bien, ils expliquent. D'accord. Voilà, et ça peut poser des problèmes pour les légumes. Par exemple, une année, on nous avait porté des courgettes qui s'appelaient Diamant Noir. J'ai tapé sur l'ordinateur et je me suis rendu compte que c'était une variété de chez Truffaut. Donc, pas touche, on l'a pas mise en rayon.
Voilà. Ah d'accord, ok. Donc parce qu'il y a un brevet qui est déposé dessus, d'accord.
Oui, et puis bon, il y a du travail derrière, il y a des investissements, donc c'est pas à nous de diffuser. Et en plus, si c'est issu d'un paquet, c'est des graines qui vont donner quelque chose à la première génération, mais si c'est une deuxième génération de F1, aucun intérêt à les mettre en rayon, puisqu'on va avoir quelque chose d'un peu...
Un peu disparate.
Voilà. Ouais.
Ça veut dire par contre là que les graines elles tournent parce qu'une graine elle a une capacité de germination.
Alors ça baisse, mais c'est pas... Nous on essaie de les garder dans de bonnes conditions. Alors je vous explique. Déjà tous les paquets sont faits. Alors c'est moi qui fais les petits pliages le soir. Des horribles gamis, vous connaissez.
Ouais, des origamis, ouais, vous faites ça, d'accord, voilà. Ok. Ouais, vous faites ça à la mode japonaise.
Voilà. Et puis c'est du papier de recyclage de la médiathèque. Donc chaque fois que les choses partiraient à la poubelle, ben, c'est transformé en pochette. On s'est débrouillé pour que le meuble qui est en bois ne soit pas traité avec des produits qui puissent annihiler la... Voilà. Il faut savoir que quand il y a des formaldéhydes dans un aglo, par exemple, ça va complètement stopper la possibilité de germination. Donc on avait il y a ça.
Je rappelle, parce que ça c'est mon métier en dehors, que les formaldéhydes et les formol et que ce sont des produits effectivement cancérigènes.
En plus, voilà. Ouais. Donc vous avez un meuble qui est non cancérigène.
Non cancérigène, voilà. Ça fait partie de ce qu'on appelle les CMR, les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Voilà, c'est pour ça. Juste, je refermais, la parenthèse de mon boulot en dehors des émissions radio.
Mais on apprend aussi avec vous, Philippe.
Voilà, et puis bon, après, on étiquette. Alors on a fait... au début, on avait peu de variétés, donc les gens farfouillaient. Maintenant, on essaie de regrouper les graines.
Alors, il nous présente en même temps, on est à la radio, on ne le voit pas, hein. Donc Diego Arrabal, je vais vous laisser le décrire.
Le grenetier.
Oui, alors sur le site d'ailleurs des bibliothèques TLP, hein, Tarbes, Lourdes, Pyrénées, on a une page qui est consacrée à la grenothèque, qui parle de la grenothèque, et où on a une magnifique image d'un meuble rectangulaire avec des tiroirs.
Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus comme
graines? Il y a marqué tomate, poivron, piment, carotte, navet rave, de A à C, de D à F, etc.
Oui, alors ça, c'est les tiroirs des fleurs. Vous avez un petit sigle pour montrer les fleurs.
Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un dessin de fleurs. Sinon, il y a les potimarrons, potirons, pastèques, melons, les choux, les blettes, salades... Alors, aroche, c'est les salades.
L'aroche, c'est un vieux légume qui existait au Moyen-Âge. Qui montent assez haut et qui peuvent se consommer comme les épinards. Alors, il y a de la roche rouge et de la roche blonde. Mmh. Et la roche rouge, quand vous la faites cuire, ça redevient vert, en fait. Le rouge disparaît, voilà.
D'accord. Donc, vous avez du maïs et des blés anciens. Alors, la photo, là, elle ne correspond pas forcément à ce que l'on trouve aujourd'hui, si on y va à la date d'aujourd'hui, à la grenothèque. Ça va changer, non, c'est ça?
Non, les tiroirs restent les mêmes. Par contre, on est en ce moment en train de trier les variétés de tomates. Donc, il est un peu vide, Mais bon, ça va.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les catégories qui sont à demeure.
Voilà, c'est à demeure. Okay, et puis on trie, on présente dans les tiroirs. Voilà.
Alors, j'ai une question. Bon, là, il y a des graines. Comme je le disais en début d'émission, dans un mois et trois semaines, donc on sera au printemps. Mmh. il faut venir chercher les graines quand et les planter quand? Parce qu'on les plante d'abord, je suppose, en petits pots avant oui. d'aller les mettre en extérieur. C'est à, par exemple, je viens chercher des tomates, c'est à quelle époque qu'il faut
alors,
que je les plante?
Alors les tomates, en fait, oui, je me suis trompée. Le tiroir des tomates est plein ouais, cette saison. En fait, les tomates, on peut commencer en février. Alors ça demande...
C'est-à-dire, la semaine, c'est-à-dire donc la semaine prochaine.
Oui, février-mars, voilà. Et donc si on a une serre froide, ben, c'est bien. Sinon, derrière les fenêtres, il faut absolument qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lumière pour éviter que les, ce qu'on dit, les plants filent. Et,
et les plants filent, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en manque de lumière, les tiges s'allongent énormément et deviennent extrêmement fragiles, voilà. Donc
derrière une baie vitrée, plein sud.
Voilà, avec faites attention à la brûlure. La chaleur n'est pas indispensable, hein, mais la lumière est vraiment très très importante.
Alors la chaleur n'est pas indispensable, ça veut dire on peut laisser dans une pièce à combien de degrés? Donc si je sème une graine, donc là dans
une semaine.
Pour une
tomate, 15-18 degrés, c'est bon. Après, si c'est plus, c'est bien aussi. Hein.
D'accord.
Voilà, et c'est des plants, par contre, il faut s'organiser que l'on ne pourra sortir. Et mettre en place que après les scènes de glace.
Donc c'est-à-dire
donc
après,
on calcule mi-mai. Alors soit on les sort et on leur met une espèce de chaussette en plastique au dessus. Là, vous avez dû voir ça. Ou des grosses bouteilles d'eau dont on aurait enlevé le fond,
d'accord,
comme des cloches.
De
voilà.
Ça fait un peu comme une serre. Hein.
Mais voilà. Et puis le secret aussi pour les tomates, c'est de les rempoter plusieurs fois si on peut. Alors la première fois dans un terreau un peu léger, un peu moelleux. Et puis petit à petit, vous ajoutez de la terre du jardin pour que le jour où vous les mettez dans le jardin, elles ne soient pas surprises. Voilà, elles sont habituées à la terre du jardin.
D'accord. Bon, donc ça veut dire que dans une semaine, on peut commencer. Donc si on voit Philippe Subercaz dans une semaine venir donc, à la Grainothèque de Lourdes pour commencer à lancer donc, effectivement les graines, parce que je plante une graine de tomate, elle va mettre... Je n'ai jamais fait. Hein. Ça met combien pour sortir de terre?
Déjà, au bout de 5 jours, vous devez commencer à avoir une petite racine. Petites... Oui, oui.
D'accord.
Ça pousse quand même assez vite. Alors,
il
là
faut
aussi...
les mettre dans l'eau? Est-ce qu'il faut les mettre dans l'eau?
Non.
On dit souvent qu'il faut les
non,
mettre dans l'eau
non,
de
non.
jour avant.
Ce que l'on va mettre dans l'eau, ce sont des grosses graines du style fèves, pois, des choses qui ont besoin d'être hydratées avant de pouvoir pousser. Mais la graine de tomate est très, très fine et en fait, elle n'a pas... Alors, le secret aussi, c'est de ne pas planter trop profond. Quand vous avez une graine, vous la regardez bien et normalement, au-dessus, on doit mettre une fois et une fois et demie son épaisseur. C'est-à-dire qu'une graine de tomate, elle va être à peine recouverte de
2-3
terre.
2-3 mm, voilà. Mm de
oui,
terre,
oui, oui.
Pas plus.
Oui. 5, vous pouvez aller jusqu'à 5.
Ouais, jusqu'à 5, mais je veux dire, c'est vrai
oui.
que moi, je l'aurais planté
oui,
beaucoup plus profondément.
Voilà, oui,
quoi.
Oui. Alors, celle qui se plante profondément, c'est ce que j'appelle la plantation suppositoire. Ce sont les grosses graines, voilà, comme les graines, voilà, par exemple,
melon,
une fève, voilà, oui, que vous allez pousser dans le sol pour, voilà, pour les enterrer un peu.
Bon, mais vraiment intéressant, on a bien fait de faire cette émission cette mais semaine, parce que finalement, c'est dans une semaine
sûr.
Qu'il faut s'y mettre
et,
hein, pour planter des graines en retard.
Et puis,
sinon.
J'ai une dédicace pour Annick Baléry quand même, que je vous fais écouter.
Ah, allez-y, on vous écoute, on écoute.
Et ça, c'est pour vous, Annick Baléry.
Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande deux fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines.
Bon, voilà, je voulais la faire, Valérie, c'est extrait de Kaamelott, la série.
Ouais, excellente série que j'ai regardée en boucle.
Voilà, ça c'est, ouais, ça, c'est un extrait vraiment...
Et puis, je pense qu'autour de cette table, nous ne mangeons pas que des graines.
Non,
nous,
non, je pense non. pas, non. Je pense voilà. pas. Bon,
et d'ailleurs, autour, je protège les plantes, moi, en mangeant de la viande.
C'est ça.
Voilà, exactement.
Oui, que mange la vache?
Bah de l'herbe.
Oui, du soja un peu aussi.
Oui, mais bon, dans la nature, elle mange de
nous
l'herbe.
Nous avons du soja à la Grainothèque.
Ah, il y a du soja à la
Grainothèque,
mais pas OGM.
Non, pas OGM. Mais alors après, autour de la Grainothèque, il y a d'autres activités qui se sont développées. On a une fois par mois une conférence sur un thème vert. Ça peut être les engrais verts, le compost, les arbres fruitiers. Enfin, ça change suivant la saison. Et puis, on accueille aussi des maisons de retraite qui viennent nous voir et qui font des petites activités jardinage. une fois par mois. Alors, on a trois maisons de retraite jusqu'à présent.
Vous avez prévu d'y avoir Diego Arrabal aussi ou
Oui, bien sûr.
Mais je ne suis pas encore prêt pour la maison de retraite.
Voilà. Et c'est sympathique parce que en fait, ça oblige, entre guillemets, les papy-mamies à quitter la structure où ils sont habituellement. Ils ont des choses à raconter en revenant. Et puis, quand ils reviennent me voir aussi, ils m'expliquent comment la plante a poussé. Alors, on plante des bulbes, Hier, on a planté des crocus, par exemple. On a fait une préparation. Voilà. Et ça change un peu tous les...
Et on parlait tout à l'heure, je parlais des tomates, là, très souvent, puisque vous parlez des gens que vous recevez, notamment des maisons de retraite. Moi, je me rappelle de mes grands-parents, qu'ils avaient leur potager, ils me recommandaient tout le temps de mettre des feuilles d'ortie.
Alors ah,
est-ce que c'est exact ou pas sous le plan de tomates?
Alors, en fait, il y a quelque chose qui est plus efficace que les orties, c'est les sardines.
Les sardines.
Non, c'est très sérieux. C'est quelqu'un qui m'en a parlé lors d'un repas, mais ça, il y a une logique. Alors, si vous avez un terrain qui est extrêmement fumé et qui est une bonne terre noire, l'ortie, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va activer la pousse des feuilles. Les cellules des tomates vont être grosses et donc plus fragiles par rapport aux maladies et par rapport aux insectes. En fait, une tomate, voilà, si vous développez le feuillage, elle va mettre du temps à sécher entre deux averses et les maladies vont se développer. Et puis, c'est très bien si on veut faire des épinards parce que la feuille est intéressante. Mais dans la tomate, a priori, c'est plutôt le fruit qui est intéressant. Donc, voilà. Si vous avez un terrain pauvre, oui, allez-y avec l'ortie, ça va vous apporter de l'azote.
Sinon, des sardines.
Voilà, non, mais c'est anecdotique. Mais j'avais lu dans un roman anglais une fois qu'il plantait des rosiers et au fond des trous de plantation, ils mettaient de la limande. C'est très chic, je trouve. Voilà. C'est pour apporter du phosphore, en fait. Et on peut le faire d'une façon tout à fait
bon,
différente.
On sait qu'il y a la radio, on sait qu'écoute la radio, vous savez, Joseph, qui travaille donc à Radio Présence, qui fait du potager. Donc, Joseph, écoute, c'est à vous que l'on s'adresse. Hein. N'oubliez pas surtout donc, de mettre, hein, on l'a bien dit... des sardines, donc, voilà. Sous les plantes de tomates, si jamais, effectivement, c'est... voilà.
Il est mort de rire, il a raison.
Le message est passé, donc, ouais. À Joseph de Radio Présence. Ouais. Philippe Subercas, si vous le voyez par hasard, n'hésitez pas à lui communiquer.
Il n'est pas très loin de moi.
Pas très loin de vous, voilà.
Je précise qu'on me l'a raconté qu'une seule fois. Mais c'était très sérieux, mais voilà.
Bon, ben écoutez, la Grénothèque, on a bien fait de le faire. Hein, donc, dans une semaine, oui, ça veut dire qu'il faut venir à la Grénothèque, donc de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à la médiation de Lourdes, donc sur internet Diego Arrabal. Donc vous avez tapé quoi, Diego, pour ces
Grénothèque TLP.
Voilà, Grénothèque TLP, vous aurez les horaires, vous verrez le très beau meuble dont parlait tout à l'heure
Annick,
qui a été fait par les AT.
Avec, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des ardoises et des colliers en façade.
Oui.
Ah, d'accord.
Ça c'est le côté maîtresse.
La présentation des différentes graines. Est faite sur, c'est marqué sur des ardoises d'écoliers.
Des ardoises d'écoliers.
Ça fabrique la façade des tiroirs. En fait.
Ben, je pense que vous allez avoir beaucoup de monde dans une semaine qui va venir à la Grénothèque de Lourdes. On en a parlé au très très bon moment.
Exactement.
Et
passez à nous porter des graines aussi.
Oui,
quand
voilà.
Même.
Non, mais bien sûr, voilà, on a bien compris qu'effectivement, voilà, le problème c'est que vous n'aurez plus de graines si personne n'en porte, effectivement.
Oui. À la semaine
prochaine. Merci pour le bon affaire, Supercas. Au revoir.